des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
7 ans et demi de prison pour avoir secoué son bébé à mort. Coupable d'avoir secoué son bébé d'à peine une dizaine de jours et d'avoir causé la mort, Alexandre Roux a été condamné mercredi dernier en après-midi à 7 ans et demi de pénitencier au palais de justice de Sherbrooke. Assez marquant, traumatisant, au moins justice est faite, mais on se pose la question... Comment un père peut en arriver à secouer son bébé à mort? Et on en parle avec Maître Sharon Otis qui est avec nous. Bonjour, Maître Otis.
Oui, bonjour, Maître Bernier.
Donc, toute qu'une histoire, là, expliquez-nous un peu là, qu'est-ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre puis de savoir après ça pour comment un père peut secouer son bébé.
Grosso modo, je pense qu'il faut se reporter et retourner dans le passé au moment où les faits sont arrivés. C'est-à-dire parce que là, la peine, la sentence, elle est connue. Cependant, ça a pris quand même 3 ans de processus judiciaire, vous comprenez, avant d'en arriver là. Mm-hmm. Donc, c'était un jeune homme. Son jeune âge a compté aussi dans les facteurs. C'est un couple de jeune âge et le bébé semblait-il braillant, était en présence du père et le beau-père les appartements là étaient pouvaient concomiter là, ils pouvaient se transférer d'une part à l'autre. Donc, okay. Au moment où la mère arrive, l'enfant, parce que la mère n'était pas présente, l'enfant est mal en point. Et c'est là où est-ce que pour la mère de ce qui ressort du témoignage, c'est allé très vite là. Elle comprenait pas, elle n'osait pas croire que son conjoint, qu'elle l'aimait tellement, puis ça, elle l'a mentionné à plusieurs reprises, ça ressort, qu'elle l'aimait tellement, puis elle aurait jamais pensé qu'il aurait été capable de faire de tels gestes. Et son entourage, l'entourage des deux conjoints n'aurait jamais cru que ce monsieur... Et il n'a, par contre, il n'a jamais avoué dans le cadre du procès qu'il le fait.
Parce que dans le fond, la mère arrive, l'enfant n'est pas bien, là. Puis ça, je comprends bien, c'est le père qui est là, puis le beau-père aussi qui est allé en même temps?
C'est ça. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, arrestation des deux et accusation. Mais quant au père, là, je n'ai pas pu répertorier là, qu'est-ce qui s'est passé là, dans son dossier.
Donc, je me suis peut-être trompé en entrée, c'est pas le père qui l'a secoué, c'est le beau.
Oui, c'est le père.
Ah, c'est le père. OK.
C'est le père. C'est un jeune homme. Et au moment là, des faits, là, c'était un jeune couple. Donc.
Quel âge à peu près?
Madame avait 18 ans, là,
okay,
elle l'a mentionné d'ailleurs qu'à 18 ans, c'était quand même impactant de préparer les funérailles de son enfant.
Oui, parce que la mère, l'enfant n'est pas mort sur le coup, là.
Non, la mère a dû prendre la fâcheuse décision et... de débrancher l'enfant. Et si vous me permettez, je vais reprendre là mutatis mutandis là ce qui en ressort.
C'est
elle
bon.
A dû prendre la décision de le laisser partir parce qu'il était aveugle, paralysé et que son cerveau était mort a été la décision la plus facile à prendre, mais qui m'a fait le plus mal.
Aïe, aïe.
Ben, elle dit encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à l'assumer. C'est très clair, tu sais. Déjà là, elle a perdu son enfant. Elle doit faire le deuil de son enfant. Et non seulement ça, elle porte là, le fardeau d'avoir pris la décision fatale de mettre fin à ses jours parce qu'il n'aurait eu. Il n'était pas viable, là.
Ouais.
Vous comprenez, le cerveau était mort. Donc, et on parle de 34 fractures. Les experts qui ont témoigner, sont venus dire que c'était assez assez grave comme cas là de et que l'enfant était vraiment mal en point là, donc
parce que c'est violent et Maître Otis, ça doit pas, parce que la mère arrive puis il est pas en train de le faire, là, fait que ça doit pas être évident comme enquête de réussir à trouver qui a fait ça, là.
Ben surtout que le père n'a pas témoigné, et il ne reconnaît pas. D'ailleurs, la juge qui a rendu le jugement, là, l'honorable Daniel Côté, mentionne dans son jugement que elle a sermonné également la famille de monsieur, en ce sens que il le réconforte dans le déni, parce que monsieur nie encore avoir posé ses gestes.
Mais lui, dis-tu que c'est le beau-père? Est-ce qu'il dit que c'est pas lui, c'est le beau-père?
Non. Il nie catégoriquement. Il dit catégoriquement.
Pour lui, l'enfant n'aurait pas été secoué, c'est ça?
Oui, c'est ça. Okay. Et la famille l'encourage dans cette négation-là. Mmh. Et la juge, parce qu'elle a rendu une décision écrite qu'elle a lue, bien évidemment, science-sonante, mais elle s'est adressée également à la famille en disant si vous voulez aider votre fils, je vous invite à éviter le délit.
Mmh.
Okay. Et la sentence de 7 ans et demi de pénitencier se base aussi sur le fait que...
Il reconnaît pas ses torts, ouais.
Mais il y a eu un rapport présententiel et le but vise sa réhabilitation. Donc, parce que les risques de récidive semblent faibles selon le rapport présententiel. Mais cependant, monsieur semble pas être en mesure de voir la gravité des gestes.
Okay.
Mais vous savez que avant que ce genre de situation-là fâcheuse arrive, il y a des choses qu'on peut faire.
Bien, on va en venir à ça, mais il faut comprendre... Maître Otis, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez l'expérience là, des PJ avec les jeunes. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un père? C'est à cause que l'enfant pleure puis il veut l'arrêter ou il y a une preuve qu'il ne voulait pas d'enfant puis qu'il l'aurait agressé?
La preuve factuelle relatée mentionne que le père, que l'enfant braillait et à deux reprises aurait retourné là dans son appartement, donné le biberon à l'enfant, aurait fait là deux allers-retours, un enfant ne cessait pas de brailler. Donc je pense que peut-être on a parlé d'ailleurs, là, on a soulevé son immaturité, là, donc peut-être qu'il n'a pas pris la bonne solution. Il n'a peut-être pas voulu commettre l'irréparable, mais somme toute, il est arrivé ce qui est arrivé, donc...
Moi, je comprends. Et justement, ça, il peut y avoir, vous parlez d'aide, là, il peut y avoir des parents qui, puis ils disent, si votre enfant vous énerve à tel point, il faut aller prendre l'heure, il faut pas rester là, ou du moins, il peut y avoir de l'aide pour ça, là.
Bon, oui, il peut y avoir de l'aide. Là. Il y a déjà un programme périnatal de prévention du syndrome du bébé secoué qui est instauré dans certains hôpitaux, si ce n'est pas la plupart des hôpitaux. Pour planifier, c'est-à-dire qu'il suggère aux futurs parents de planifier un réseau de soutien social dans le cas d'une détresse psychologique et de voir quelle personne, quel membre de notre entourage pourrait venir en aide, c'est-à-dire les parents, des amis, de la famille éloignée, etc. D'augmenter vos connaissances sur et d'appeler le 811 Info Santé, de voir est-ce que l'enfant, c'est normal qu'il branle comme ça, depuis une certaine durée, qu'est-ce qui pourrait causer ça? Peut-être que l'enfant aurait été orienté vers l'hôpital ou pour obtenir des soins, vous comprenez? Le programme mentionne aussi d'apprendre à reconnaître ses émotions, d'en parler, de se procurer même. Là, il parle d'un thermomètre de la colère pour voir jusqu'où et qu'il y a des intervenants au CLSC qui peuvent aussi pallier, vous aider en cas de détresse. Et il y a toujours la ligne parent aussi qui est possible. Donc, avant de commettre l'irréparable, il faut se dire qu'il y aura des meilleurs jours et ne pas faire... Parce que c'est les bébés, c'est... Vous comprenez? On parlait de... Vous avez dit 10 jours, là, mais selon la preuve relatée, c'est 6 semaines, là.
Okay.
Que l'enfant avait, mais somme toute, c'est un poupon, vous comprenez? Donc, c'est sûr que c'est fragile. Donc, alors, n'allez pas commettre l'irréparable et demander de l'aide. Je pense que ce n'est pas être un signe de faiblesse, mais bien un signe de force et de démontrer qu'on est un bon parent et de dire qu'on est plus en mesure d'assurer la santé ou la sécurité de notre enfant, puis qu'on a atteint notre seuil de tolérance, vous comprenez, de demander de l'aide.
Oui, effectivement. C'est... Mais en tout cas, on ne pardonne pas ces gestes-là. D'ailleurs, c'est quand même 7 ans et demi de prison. C'est une peine très sévère quand même, mais je ne veux pas relativiser. C'est un crime très grave. Mais dans 7 ans et demi, c'est beaucoup aussi parce qu'il ne reconnaît pas son crime en plus, là.
Ben, il le reconnaît pas, puis il est toujours dans le déni. Je pense que c'est tout ce que aussi faut tenir compte. Que c'était le père de l'enfant, c'était et n'a pas collaboré nécessairement, je pense. Et c'est démenti, là, apparemment, là, a été pris, même s'il n'a pas témoigné, là, dans le cadre de l'enquête de la police. Il y aurait des témoignages contradictoires, des verbalisations contradictoires. Donc, c'est sûr que tout ça n'a pas aidé, mais c'est sûr que cet ennemi, pour la population, je pense que les gens doivent être outrés de voir cet ennemi. Pour eux, c'est pas beaucoup, mais vous comprenez.
C'est ça.
Au Québec,
dans le domaine, effectivement, c'est quand même une bonne peine. Et effectivement, c'est son père, c'est son devoir, c'est de protéger son enfant.
Oui.
Et s'il avait commis ce geste-là, de le dire rapidement pour essayer de faire quelque chose pour le sauver. Donc, merci beaucoup. Cas très troublant. Merci, Maître Otis, de nous avoir éclairé. Bonne journée.